Quotidiennement, les valeurs sous-tendent nos décisions, nos actions, nos choix de vie. Et le paradoxe, eh bien, c'est que bien souvent, c'est par leur absence que ces valeurs nous interpellent, qu'elles soient conscientes ou non. Donc, nos valeurs dirigent nos vies, pilotent la qualité de nos relations. Alors, il y a trois chercheurs, trois personnalités, qui, à partir de leur vision renouvelée du monde, eh bien, ont débattu dans un DVD du bon usage de la valeur. Alors, ces trois chercheurs sont à la fois Jean-Claude Genel, qui n'est pas avec nous ce matin, mais en revanche, Aruna Lipschitz et Bernard Leblanc-Almos sont avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Alors Aruna, on vous connaît, vous êtes philosophe de la relation, on a fait plusieurs émissions ensemble. Et Bernard Leblanc-Almos, vous êtes entre autres l'auteur de ce livre dont on parlera lors d'une prochaine émission, « Mon chef est-il cosmiquement rentable ?» un titre qui effectivement nous interpelle. Vous reviendrez lors d'une prochaine émission. On va s'intéresser ce matin aux valeurs, à ce que sont ces valeurs. Mais qu'est-ce qui vous a premièrement amené à un moment donné dans votre parcours à vous intéresser à cette idée de la valeur pour vous, par exemple, Aruna?
Moi, c'est très simple. Tout au long de ma recherche ou de ma quête de sens sur la vie que j'ai envie de mener, je me suis rendu compte que les valeurs, c'était l'endroit où je pouvais faire fonctionner ma liberté. Parce que les valeurs, on les choisit. Et moi, qui ai une réaction épidermique à la posture de victime, je me suis précipitée dans cette idée que à travers les valeurs, je pouvais être opérationnelle, co-créer, co-piloter ma vie et pas seulement la subir. Et du coup, j'ai inventé et élaboré ce que j'ai appelé la valeur thérapie, une façon de guérir, entre guillemets, le négatif ou les choses qui vont pas bien dans notre vie en changeant de valeur.
Oui. Alors peut-être, on va préciser un tout petit peu, pour encore présenter votre approche des valeurs, on peut rappeler, et ce qui est peut-être important de le souligner, et vous le faites dans le DVD, que vous êtes né dans une famille juive, vous avez grandi donc avec des valeurs, une morale, et lors d'une précédente émission, nous en avons largement parlé, de ce parcours initiatique que vous avez pu faire, mais en tous les cas, c'est ce poids de ces valeurs un peu trop oppressant qui vous a obligé à vous marier à 18 ans.
Tout à fait, tout à fait. Au fond, vous avez parfaitement raison, j'ai vu la puissance des valeurs en subissant d'abord le poids, à travers ce qu'on appelle la morale. Et les gens confondent beaucoup la morale et l'éthique, on en parlera sûrement tout à l'heure. Et dans un premier temps, ma rencontre avec les valeurs, ça a été à travers la morale, et en particulier la morale dans la religion, et une religion particulièrement patriarcale. Alors, on va dire là aussi pour le meilleur et pour le pire, parce qu'en même temps, j'ai eu des valeurs. Ce qui m'a permis d'avoir des références à partir desquelles j'ai pu me positionner pour ou contre et réaliser que c'est des choix. Donc finalement.
Alors vous dites qu'en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas justement avec ces valeurs un peu ou cette morale. Et puis ça vous a conduit à la rébellion, à une période où on se rebellait, où tout le monde se rebellait, parce que c'était dans les années 68.
Tout à fait. Ça a été la grosse rébellion. Et du coup, c'est sans loi, ni foi, ni maître, ni Dieu, etc., etc. On jetait tout aux orties. Et c'est en jetant tout aux orties aussi que je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, parce que tout et rien, quelque part, c'est pareil. Et petit à petit, après avoir tout jeté de la morale, j'ai pu voir que, inconsciemment de toute façon, tout ce qu'on fait est l'expression de nos choix, donc forcément de nos valeurs, qu'elles soient nommées ou pas nommées. Quel que soit notre comportement social en particulier, notre façon de nous conduire, pourquoi on se conduit comme ça et pas comme ça? C'est en fonction d'idées qu'on a sur comment il faut se conduire. Et ces idées sur comment il faut se conduire, après tout, définissent nos valeurs.
Oui. Alors, juste encore, on continue un petit peu cette investigation dans les raisons qui vous ont fait vous intéresser à ce thème. Parce qu'en 68, où il y a une rencontre aussi qui va vous aider. Cette rencontre, c'est Deleuze. Vous allez le faire avec Deleuze.
Tout à fait. Tout à fait. Alors là, et en fait, c'est qu'après coup, donc quasiment ces 10 dernières années où je me suis rendu compte de l'importance que sa pensée a pu avoir sur moi, en particulier sur l'éthique, justement. Et je trouve que Deleuze a révolutionné la question de la morale en expliquant qu'il fallait la différencier de l'éthique et que l'éthique, c'était l'endroit où on choisissait précisément nos valeurs et où on était un homme libre. Au sens où il va très loin. Évidemment, dans la lignée de Spinoza, il faudrait qu'on fasse tout un chemin pour voir tout le lien entre Spinoza, qui a été à mon avis, un des tout premiers à poser cette question du choix par rapport à une éthique. Et donc, le fait qu'on peut être quelqu'un qui choisit des valeurs tristes, c'est le thème de Spinoza, ou des valeurs qui conduisent à la joie. Et Deleuze a repris ça, et lui, grand philosophe moderne, j'allais dire, il montre comment ce choix fait de nous des hommes libres, puisque, dit-il, l'éthique, c'est carrément notre pouvoir personnel.
Oui, il faut aller entre éthique et pouvoir personnel.
C'est incroyable. Et ça, si vous voulez, pour moi, ça a été l'espèce d'endroit où toute cette réflexion qu'on mène forcément quand on est jeune sur la morale, les valeurs, la façon dont on a envie de vivre, c'est là que tout s'est rassemblé et où j'ai commencé à me dire oui, c'est l'éthique, c'est mon pouvoir personnel. Et donc, en choisissant mes valeurs, je définis le pouvoir que j'ai de ne pas subir ma vie.
Alors, ne pas subir votre vie. Alors, encore petite parenthèse, Aruna, que je vais faire avec vous. Vous êtes venu, vous avez écrit une trilogie qui raconte un peu toute votre histoire, votre initiation. Et vous êtes intéressé à un moment de votre vie, très largement, au bouddhisme.
À l'hindouisme.
Bon. L'hindouisme fait référence à cette idée de karma.
Mm-hmm.
Alors, quel lien vous pouvez faire ? Est-ce que vous remettez en cause, là, cette loi de la causalité, qui est cette loi du karma ? Est-ce qu'on serait donc un peu moins impuissant, qu'on ne veut bien le dire, devant
le
karma ?
Je pense que même ce karma, qui est effectivement un grand axe, et du bouddhisme d'ailleurs, et des philosophies orientales en général, disons rapidement pour les auditeurs qu'il n'y a pas de cause sans effet et que donc le karma, c'est reconnaître que ce que je vis aujourd'hui est la conséquence de ce que j'ai fait dans le passé. Soit dit entre nous, la psychanalyse reprend le thème de la causalité puisque le présent, on va chercher dans le passé les causes de notre présent. Le karma est un terme finalement très psychanalytique. Donc ça, c'est pour une petite boutade en passant. Mais ceci étant dit, oui, je pense que même vis-à-vis du karma, même si on accepte complètement ce que je fais, cette réalité qu'il y a une loi de causalité et qu'aujourd'hui ma vie est une conséquence du passé, les causes ne suffisent pas. La valeur thérapie que je propose permet de se dire, à partir de ces causes, c'est moi qui suis libre de qu'est-ce que je vais en faire. Et je dis souvent, une cause, 1000 effets possibles. C'est-à-dire, certes, il y a eu une cause dans mon passé qui fait que j'ai un caractère de cochon, ou que je suis quelqu'un de colérique, ça c'est très vrai. Et que je suis profondément quelqu'un de colérique, au moins que j'étais, parce que justement, le choix que j'ai pu faire de qu'est-ce que je vais faire de cette colère et comment je vais la transformer, ça c'était ma liberté. Et avec la même colère, on peut faire 1000 vies possibles. Donc, le karma existe et ce que j'en fais, c'est ma liberté.
Alors, c'est ce dont on va parler ce matin et c'est très intéressant parce que quand on étudie ces valeurs, vous le dites, on se rapproche de soi. Quand on est dans ses propres valeurs, on se sent bien et on guérit. Valeur thérapie, c'est ce que vous avez développé, on en reparlera. Mais voilà, je me tourne vers vous maintenant, monsieur Bernard Leblanc-Almos. Vous faites aussi partie de ce DVD qui est entièrement consacré à cette idée de valeur. Vous y avez réfléchi aussi. Et je vais vous poser la même question. Karuna, qu'est-ce qui vous a amené à un moment de votre parcours à vous intéresser à cette idée de valeur ? Alors, je vous connais beaucoup, bien moins, donc je ne vais pas... voyez, ce parcours d'Aruna, je le connaissais un petit peu. Mais alors, vous allez nous expliquer plus en détail par vous-même ce qui vous a amené à réfléchir sur cette idée de valeur.
Si je grimpe à l'échelle de ma mémoire, là, bon, qui est une petite échelle, peut-être un peu longue, mais petite, je ne me souviens pas ne pas avoir été intéressé par la mise en valeur des autres, même tout petit. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement moi en tant que petit clos où je jardinerai mes propres fruits ou mes propres capacités, mais c'est l'intergénialité entre les jardins communs, qui c'est cette petite planète Terre sur laquelle il y a des individus. Pour l'instant, on est 6 milliards, 7 milliards bientôt. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble, de valable, qui serait important de valider, de valeureux. Et donc, quand on vit ensemble, moi, je vis un petit village, on vit dans un quartier, on vit dans une équipe. En fait, on est rarement seul. Et ce qui nous arrive, ce qui m'arrive à vous m'arrive à moi. Et on n'est pas étanche. Et donc, cette fluidité, ce ressourcement les uns par les autres, ça m'a toujours passionné. Mais ça me passionne même de plus en plus. Je pense que je suis complètement en état d'ébriété de cette recherche constante, des deux silex qui se rencontrent, que chaque rencontre est une occasion de grandir ou de s'étonner. Et hier, je me disais, mais pour finir, t'es un récupérateur de TVA.
Oui.
La TVA étant des trésors de valeurs validées, enfin des valeurs animées, des valeurs accueillies, des valeurs accostées. Dès qu'il y a une personne comme là ce matin, vous, c'est le moment d'aller à la cherche au trésor de valeurs qui soit n'existent pas, soit ont été cassées, soit effectivement ont été terrorisées ou malmenées, et qui, c'est le moment de les réhabiliter, de les réparer, de les retrouver, de les ressourcer. L'énergie recyclable, c'est nous. Donc, de les recycler. Donc, on peut utiliser tout, le passé, le présent, l'avenir et d'autres temps qu'on ne connaît même pas. Soit, il y a des valeurs qui sont là, à fleur, enfin, en herbe, qui sont à fleur de peau ou qui demandent qu'à surgir. Mais encore, comme une lampe d'Aladin, il faut aller la frotter un peu. Enfin, quand on se rend compte, en fait, si on n'a pas de frotti-frotta sur des petits bonjours, des petits bravos, des petits encouragements, on est en train de se malmener. Donc, de découvrir le génie d'Aladin qui est en nous, mais encore faut-il astiquer la lampe.
Alors, on le voit, vous avez des façons très différentes, tous les deux, de parler de cette idée de la valeur. Hein. Oui. C'est ce qui témoigne, hein, ce qui est très, très présent dans le DVD. Un même thème, trois personnalités différentes et trois approches de ces notions de valeur différentes, très personnelles. Hein. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas toujours d'accord.
Non, mais en même temps, j'entends...
Oui.
J'entends quelque chose quand Bernard parle à sa manière des valeurs. Il y a quelque chose qui se recoupe parce que mettre en valeur l'autre, oui. Ça dépend aussi de nos valeurs, la manière dont on va le faire. Trouver et rencontrer la valeur de l'autre dépend aussi de comment moi je suis avec mes propres valeurs. Quelqu'un peut être il y a quelqu'un qui peut avoir une certaine façon de se comporter par rapport à mes valeurs. Je vais être très dans le jugement parce que je vais trouver que par rapport à mes valeurs, sa manière de se comporter n'est pas agréable. Et donc, il y a dans ce que dit Bernard quelque chose qui se recoupe avec ce que je dis, c'est que les valeurs sont une manière de travailler notre potentiel social. Et je suis absolument convaincue que nos valeurs permettent de meilleures relations. Et qu'en tous les cas, elles enrichissent les relations à travers la mise en valeur de l'autre, à travers la valorisation qu'on se donne, la valeur de soi. Il y a plein de mots là, formidables sur la valeur. C'est ma valeur de moi-même à travers les valeurs que je développe et dont je suis fière qui me permet aussi d'être en résonance juste avec l'autre et en même temps de devenir quelqu'un d'agréable socialement. Voilà. Ou alors sinon, on se retrouve qu'avec du même. Je suis qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Et donc la différence, enfin, travailler avec la différence, c'est une manière de pouvoir de mettre en valeur quelqu'un d'autre que moi, en même temps de me poser par rapport à mes propres valeurs et de ne pas me laisser emporter dans le désir de l'autre, par exemple,
oui.
Ou dans l'envie que ce soit tout, tout beau, tout joli.
Oui, alors que oui, effectivement, quand on parle de valeurs, on traite de ce sujet qui est de la différence, hein, hein, de la tolérance.
De l'interférence.
De l'interférence.
C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, là, on n'est pas d'accord, ni d'accord, on est en train de s'accorder constamment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis amoureux des mots. Donc,
oui.
Le mot accorder, par exemple, s'accorder du temps ou s'accorder un interview ou s'accorder une rencontre. Accorder, c'est le cœur. Et c'est vrai qu'il y a une logique de la tête avec les idées qu'on se fait, les représentations qu'on a, tout un théâtre de valeurs ou de non-valeurs, qui est valable, qui n'est pas valable, bien, mal. Et la tête est souvent très binaire. Ça, c'est bien pour moi, ça, c'est pas bien pour moi, ça, c'est bien pour les autres. Et donc, est extrêmement tyrannique. J'aimerais bien chanter contre nous de la tyrannie. C'est une tyrannie, on a une auto-tyrannie avec soi-même. Le cœur est très étrange parce que le sang bleu, le sang rouge, il pulse tout le temps et il est tout le temps en train de s'accorder, par exemple, un instant qui, s'il n'est pas étonnant, effectivement, c'est du karma, ça revient exactement au même. Par exemple, moi-même, c'est terrible comme expression, je voudrais être moi-même. Surtout pas, c'est une horreur d'être soi-même.
C'est identique
à soi-même, le même, de revenir au même, de retourner au même. Ce qui est intéressant, c'est même soi, il faut inventer une expression, c'est soi autre, c'est-à-dire de voir qu'on est plus large que ce qu'on pense.
Pas
que ce
moi-même,
qu'on...
mais soi autre.
Autre. Donc, dès qu'on joue, alors voilà, ouais. On peut ne pas être d'accord avec l'idée, puis dès qu'on écoute les mots, on comprend que derrière, c'est un... jeu de mots. Ouais. Et connaissant Bernard et son amour des mots, étant moi-même sémanticienne, puisque j'ai fait une thèse en sémantique, c'est vrai qu'elle était amoureuse des mots. Après, ben, j'ai l'habitude, j'écoute, et je me dis, ah, si on dit ne pas être soi-même, parce que c'est être soi autre, c'est-à-dire toujours à un devenir, ah ben je deviens d'accord.
Ouais. Donc là, au niveau des mots...
Mais ça me demande une valeur d'écoute. Si je n'avais pas la valeur de l'écoute, si je n'avais pas l'indulgence, si je n'avais pas cette valeur en moi d'altérité, qui est une de mes plus grandes valeurs, je ne prendrais pas le temps d'écouter jusqu'au bout. Ouais. Et du coup, ça créerait du rapport de force en 5 minutes.
Donc l'altérité, c'est bien l'autre, donc c'est bien l'écoute de l'autre. Et ce qui est intéressant, les mots, bon, la parole vivante. La parole vivante par rapport à une parole sèche ou étriquée, où on finit par penser ce qu'on parle et parler ce qu'on croit, et on tourne en rond sur ce qu'on dit. Dès qu'un mot, c'est pas jouer avec les mots, c'est les mots jouent avec nous, on est le jouet des mots. Dès qu'un mot reprend un sens ouvert ou large ou élargi ou affranchi, la parole se ressource et se découvre. Et en fait, il n'y a pas un mot, même si on en prend n'importe lequel dans le dictionnaire, qui n'ait pas plusieurs sens. Et on ne peut pas définir un mot comme étant une valeur fixe. Et c'est pour ça, et on me dit, mais pourquoi on a mis une chose pour communiquer où on ne comprend pas ce que l'autre dit, où chaque mot est sujet à erreur, où il ne peut pas être défini complètement, mais justement pour qu'on puisse communiquer une valeur nouvelle.
Oui, mais ça, c'est une valeur d'échange.
Ça, c'est la magie.
Qu'on oublie d'ailleurs.
Qu'on oublie, et c'est le jeu au sens, le jeu de la vie, parce que toute la vie est en jeu, toute la vie joue, et toute la vie a des valeurs de remise en jeu et se remet en jeu. Et donc, aller découvrir ses propres pensées et voir que chaque pensée peut être l'occasion d'un élargissement, c'est-à-dire d'une franchise, même d'un franchissement, et que chaque mot peut être l'occasion d'une compréhension nouvelle, et que chaque acte peut changer de modus vivendi, et qu'on peut peut-être ne pas vivre comme d'habitude tous les jours, parce que la monotonie, tout le monde trouve que c'est vraiment en dessous de tout, et que ça nous fatigue, et que ça nous use. Donc c'est quoi la valeur, le DVD sur les valeurs? C'est pas quelque chose qui plane très haut dans les cimes de l'idéologie, c'est quelque chose de quotidien, du quotidien le plus quotidien, mais le quotidien quand on rompt le pain, pour aller voir s'il y a de la mie dedans, s'il est tendre. Et donc on rompt les mots, on rompt les pensées, on rompt les habitudes, on vit ensemble. Je vois toutes les équipes qui fonctionnent bien ensemble, c'est des équipes qui s'étonnent, qui s'émerveillent, qui se surprennent, qui restent pas là où elles étaient.
Alors on va revenir à cette idée, enfin on ne le quitte pas, mais cette idée de valeur. On va essayer d'approcher l'idée de valeur, de la définition presque qu'on pourrait en avoir. Alors déjà, on se rend bien compte que les valeurs, c'est subjectif.
Ça, c'est très important. Et il n'y a qu'à entendre Bernard pour comprendre qu'avec chaque mot, c'est complètement subjectif. Et c'est une espèce de manière de vivre justement une subjectivité en mettant des mots dessus. Parce qu'on va dire une valeur comme l'indulgence, valeur capitale pour sortir du rapport de force. Eh bien, c'est pareil. Chacun va avoir un petit peu sa définition un petit peu différente de l'indulgence. Mais ce qui est sûr, c'est que si on l'a pour valeur, ça aide au rapport social.
Et puis alors, est-ce que... Alors là, je me tourne vers vous, peut-être, M. Bernard Leblanc-Almos, parce que vous m'avez assez surpris. Est-ce que c'est toujours positif, une valeur?
Qu'est-ce que ça veut dire, positif? Est-ce que positif, ça veut dire une position sociale, une position bien fixe, une position déterminée? Ou positif, ça veut dire une disposition d'esprit? Une façon, donc, comme l'indulgence, comme l'écoute, c'est-à-dire quelque chose en réceptivité, c'est-à-dire l'art de recevoir. Par exemple, si j'invite des gens chez moi, il y a tout un dispositif, toute une disposition, toute une ouverture, toute une façon d'attendre à être surpris et d'être enchanté. Quand on rencontre quelqu'un, on dit « je suis enchanté de vous rencontrer ». C'est une valeur, ça. Donc, positif n'est pas obligatoirement moi en défensive ou en offensive ou en contre pour avoir un dispositif de défense, mais c'est plutôt un art de vivre. Donc, le négatif n'est pas plus dérangeant que le positif, puisque le négatif est créatif.
Voilà, d'ailleurs, vous nous dites, ceux qui positifs toujours se trompent.
Hein. J'aimerais
que vous nous donniez une petite explication sur ça.
La volonté à l'américaine, j'ai rien contre les Américains, mais d'être positif et encore positif, mais avec un esprit qui est souvent assez étriqué sur les valeurs. C'est-à-dire, justement, il y a aucune volonté de se sentir démuni, désarmé, c'est-à-dire sans les munitions, sans les armes. D'être dérouté, d'avoir tout d'un coup un moment de désespoir ou de honte, mais le désespoir est créatif. On sait que c'est les situations désespérées amènent souvent à quelque chose. La honte, tout d'un coup, peut être très, très... Il n'y a pas aucune émotion qui ne peut pas être l'occasion de quelque chose de créatif. Dès qu'il y a un manque, bon, moi, si ce soir je fais à manger, je veux faire des crêpes et qu'il manque de farine, je me connais un peu à la longue, je vais trouver quelque chose. On fera du pas perdu.
C'est l'occasion d'une créativité.
Donc c'est l'occasion, que ce soit positif ou créatif, kiff-kiff. Kiff-kiff, créatif, positif, kiff-kiff. On peut même le chanter.
Certaines de ces valeurs ont mauvaise presse, Aruna. L'ambition, l'envie, l'effort.
Mais justement, donc là, je vais me poser un petit peu différemment. Je pense que pour parler dans le monde ordinaire, c'est sûr que si on se laisse emporter dans l'émerveillement de la pensée,
le réenchantement
du monde que dont Bernard est spécialiste, parce qu'effectivement positif, négatif, c'est toujours créatif, etc. Bien sûr, c'est absolument vrai. Mais si on se pose d'une manière un tout petit peu plus pédagogique, j'allais dire, sur cette question, il y a des valeurs négatives au sens où elles ne créent pas ni du bien ni du bon. Ni du beau, ni du bio, mes fameux 4B. Donc moi, personnellement, je pense que nous sommes là pour servir ces 4B. Le bon, le bien, le beau et le bio, le vivant, le vital. Donc quelqu'un qui en face de moi est créatif mais profondément mortifère ne me fait pas du bio. Quelqu'un qui est profondément créatif, pour lequel je sens qu'il n'est pas à l'écoute de qui je suis, qui n'a aucune place pour m'entendre, il peut être aussi créatif qui veut, mais personnellement, je ne me sens pas ni écouté, ni accueilli, ni entendu comme autre. Donc oui, il y a des valeurs pour moi qui sont négatives. Et c'est important à le savoir. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a une éthique, c'est un pouvoir personnel, mais elle peut être extrêmement mortifère. L'éthique, c'est mon pouvoir. Après, je suis libre de le choisir, mais mon pouvoir peut être un pouvoir qui est mortifère ou qui est un pouvoir vivifiant. Moi, je préfère mortifère et vivifiant que négatif, positif, qui nous remet dans la morale. Mais n'empêche, et je reprendrai Spinoza, qui lui avait très clairement différencié ce qu'il appelait, lui, pour pas rentrer dans l'histoire du négatif positif, il parlait de valeurs tristes et de valeurs qui conduisent à la joie. Et moi, je suis convaincue, profondément convaincue, que nous sommes très souvent porteurs de valeurs tristes. Et pire que, et aussi de valeurs qui créent le rapport de force et qui créent la mort et le mortifère plutôt que la vie. Maintenant, et donc en ce sens-là, ça nous donne une encore plus grande responsabilité des valeurs qu'on choisit. Donc oui, pour moi, il y a des valeurs négatives et des valeurs positives, pas au sens moral, mais au sens mortifère ou vivifiant.
Un grand lien avec les valeurs, et cette notion de plaisir, de joie, c'est très important, vous le répétez très très souvent dans ce débat.
Tout à fait, d'agréabilité. Prendre la responsabilité d'être quelqu'un de socialement agréable. Oui. Maintenant, là où je suis complètement en accord avec ce que dit Bernard, c'est subjectif d'abord, en même temps, c'est créatif, et puis en même temps, l'identité sociale, c'est quelque chose d'illusoire, comme toute identité. Donc, c'est pas un truc qu'on fait parce que c'est bien, parce que c'est mal, c'est parce que c'est agréable d'être agréable, et c'est agréable de vivre agréablement en société. Et on sait que le social, eh ben, ça passe, quoi. C'est éphémère. C'est quoi une identité sociale? Mais n'empêche que c'est une grande partie de notre vie sociale. Et nos valeurs, nos valeurs, c'est ce qui nous rend socialement agréables et qui nous permet aussi de construire une identité sociale qui, pour éphémère qu'elle soit, nous rend plus potentiellement quelqu'un qui peut réussir dans la société. Parce que quelqu'un qui est agréablement pas social, on n'a pas envie de le prendre au boulot, on n'a pas envie d'être son ami, on n'a pas envie de l'inviter et on n'a pas envie, et dans le travail, c'est pas agréable de travailler avec.
On le voit réfléchir à ces valeurs, ça nous permet d'être vivants. Elles ont une certaine force de vie, ces valeurs.
Justement, ou de non-vie, ou très mortifères. Bien sûr, là, je parle de valeurs au sens de ce qu'on appelle les valeurs classiques. Après, si on extrapole et qu'on parle de ce qui est valable, alors là, on peut aller très loin.
Et pourtant, on a en même temps des grilles de lecture qui sont très figées, des préjugés. Et ce que vous nous dites, c'est que le frontal, vous nous parlez du frontal. Le frontal, on a très bien compris, on situe très bien la zone. C'est une catastrophe.
Oui, le frontal est une cataphase parce que il est comme un front-levis, un pont-levis peut se fermer. Et là où je suis tout à fait d'accord avec Aruna, et bon, que ce soit dans les hautes sphères de la pensée ou au ras des pâquerettes, le plus important, c'est une grille de lecture qui serait une grille de lecture tout terrain, tout temps et tout type de gens, à commencer par soi-même aussi, si on peut être le même. C'est une grille de lecture qui serait ouverte à l'attention à agréer. Comme on disait autrefois, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Ça veut dire bien qu'on distingue quelque chose. Parce qu'il y a des sentiments qui ne doivent pas être distingués. Qu'est-ce qu'on distingue ? Le plaisir, la peine, la joie de maugréer, de faire des simagrées, c'est-à-dire je fais semblant que ça m'agrée, puis ça ne m'agrée pas. Le mot veut dire si ça m'agrée, simagrée. De montrer des pensées, d'avoir des bonnes pensées, d'être quelqu'un bien comme il faut, un bon pensant, un bien pensant, puis en réalité faire la même chose. Or, il y a quelque chose qu'on ne peut pas tricher tellement, et qui est à la base des valeurs, c'est ce que tu disais, c'est la joie. La joie de mettre en valeur ce qui est valable, je la souhaite à tout le monde et je me la souhaite à moi,
Que
c'est extraordinaire. La joie de remédier à ce qui est difficile et qu'on considère comme négatif ou comme mortifère, mais pas dire c'est mortifère, je le mets au vide ordure, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le remettre, pour le recycler,
voilà.
Et la joie de s'étonner, qui peut aller effectivement jusque les oies de s'émerveiller, mais je vois mal quelqu'un aujourd'hui, ce qu'on disait autrefois, la délectation morose, c'est-à-dire se délecter de la morosité. Extrêmement mortifère, voilà. Et même
c'est un peu français, non,
hein?
Pas un peu français,
c'est un peu français, ça. C'est un petit peu français, mais c'est peut-être parce que les valeurs, on les oublie un petit peu.
Ouais.
Parce que c'est ça, la joie de mettre en valeur ce qui est valable, c'est ça
la
qui
joie
nous
de
fait
remédier
choisir
à
les
remédiable.
Valeurs. Nos valeurs, elles sont là pour exprimer ce qu'on trouve valable. Et si on exprime ce qu'on trouve valable et que ce qu'on trouve valable donne de la joie, on est dans un système social qui sort de la morosité.
Oui. Et en même temps, ce qui est intéressant sur les valeurs, c'est que les valeurs ne sont pas fixes.
Voilà,
elles sont évolutives.
Voilà.
Elles
grandissent, elles bougent, elles s'en vont, elles deviennent libres.
On les change.
Elles changent, elles évoluent. Donc, ce n'est pas des valeurs fixes comme on pouvait le penser en autrefois,
voilà.
Les valeurs éternelles qui nous tombent dessus comme des poids et qui nous écrasent complètement. Mais c'est des valeurs qui n'existent pas par elles-mêmes. N'existe même pas dans mes grilles de lecture, qui n'existe que si je les mets en valeur, et donc si je les valide. Par exemple, la joie de m'avoisiner, c'est pas une joie qui peut être là, et puis je peux la développer. La joie de tout d'un coup jardiner dans ma vie un talent d'écriture ou de peinture ou un talent. Beaucoup de gens aujourd'hui se remettent à, ils arrêtent d'être des consommateurs, se remettent à créer, que ce soit créer des contacts, créer des relations. Donc la joie de créer. Et ben à chaque fois je me retrouve sur mes contre-valeurs, c'est-à-dire j'y arrive pas, c'est difficile, je me sens en échec, mais en même temps c'est pas grave. Ça, dès qu'on est à une dimension artistique, on se coltine toujours à la difficulté ou au rejet ou à l'impossibilité. Mais on va continuer à mettre en valeur des valeurs qu'on ne soupçonne même pas encore.
Alors, on va s'interrompre quelques instants. Et puis ensuite, on reviendra avec vous parler de cette notion de valeur. On en parlera avec vous, Aruna, dans la mesure où vous êtes vous réfléchissez beaucoup au couple, hein, à la relation. Donc, on verra comment établir, qu'est-ce que ça peut faire ces valeurs à l'intérieur d'un couple, hein, comment, est-ce qu'il faut avoir les mêmes, est-ce que c'est mieux, voilà. Et puis après, on s'intéressera aussi avec vous, M. Bernard Leblanc-Almos, à cette idée de village. Vous en avez largement parlé ce matin à plusieurs reprises, hein, on essaiera de développer cette idée du village. Voilà.
Vous savez, vous avez 12 ans, vous êtes un enfant dans un milieu plutôt pas obligatoirement très très riche. Vous faites de la musique tout seul parce que vous avez appris la guitare tout seul. Un jour, vous allez à un concert et c'est vos maîtres, c'est vos dieux, c'est Alexandre Lagoya qu'on vient d'entendre et c'est Ida Presti. Et après, bon, je ne sais pas quelle audace vous prend, vous montez sur scène, vous allez les voir et vous les remerciez parce que c'est vos dieux. Vous n'avez reçu aucun cours, vous faites de la guitare classique, mais vous l'avez fait tout seul, comme ça. Et vous leur dites, ben voilà, je fais de la guitare. Et ils se penchent sur vous et ils vous disent, et on peut t'entendre quelque part ? Je te deviens tout rouge, dis à la maison, ah ben on va venir t'entendre. Ils sont venus à la maison, donc mes dieux sont démarqués. Mes parents les ont reçus et ils m'ont donné la première leçon de guitare. Et ça, c'est une valeur que je ne peux pas oublier, parce qu'après, ils m'ont pris sous leur aile, ils m'ont pris sous leurs élans, n'ont jamais demandé quoi que ce soit. Mes parents disaient, tu leur demanderas combien tu dois. Et la Goya disait, ça n'a pas de prix. Et ils m'ont pris pendant des années et des années. Ces gestes de valeur-là, c'est-à-dire d'écoute de la valeur de l'autre et de la mise en valeur d'un enfant comme d'un jardin, quoi. Et c'est extraordinaire. Et quand on connaît la dimension de ces artistes, il n'y a qu'à les écouter, parce qu'ils disent maintenant tu reviendras nous voir dans 2 mois, on fait des concerts à travers le monde et tu viens chez nous. Donc ça, c'est valable.
Si on doit nommer la valeur là, parlons de la valeur de la transmission. Voilà une grande valeur. Mmh. Quelqu'un de grand et qui s'occupe de l'enfant pour le mettre en valeur dans un potentiel, dans un talent potentiel, ça s'appelle servir la valeur de la transmission. Mmh.
Alors aujourd'hui, on nous dit que l'on vit dans un monde, dans une crise de valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, je crois que c'est un petit peu ce qu'on a dit. C'est qu'il y a un manque de conscience de l'importance des valeurs. On ne vit pas dans une crise de valeurs puisqu'on ne peut pas ne pas en avoir. On vit dans une crise de l'inconscience par rapport aux valeurs. Mais on ne peut pas ne pas avoir de valeurs. C'est comme on regarde, on a des yeux pour regarder. Tous nos comportements disent nos valeurs. Ce qu'on n'a pas, c'est le courage de regarder les valeurs que les comportements disent, de nommer les valeurs que certains comportements disent, l'amorosité, l'égoïsme, le manque de solidarité. Voilà, il faut nommer les valeurs. Il n'y a pas de crise de valeurs, il y a une crise des valeurs que l'on sert.
Alors on parle aujourd'hui, ce matin, de cette idée de valeurs, dans la mesure où il y a un DVD qui vient de sortir, hein, qui parle de ce bon usage des valeurs, et ces 3 chercheurs, 3 personnalités qui, à partir de leur vision tout à fait renouvelée du monde, eh bien, débattent dans ce DVD de cette notion de valeur. Alors on le voit très bien, hein, ce sont avec des idées qui sont parfois divergentes, 3 façons de s'exprimer différemment, 3 univers différents, celui de Jean-Claude Genel, qui n'est pas avec nous, mais voilà, Aruna Lipschitz et Bernard Leblanc-Holmes, vous êtes avec nous et nous en débattons avec vous ce matin dans cette émission. Alors, je me tourne quand même vers vous, Aruna, dans la mesure où vous êtes une philosophe, je dirais, de la relation.
Tout
et
à
aussi,
fait.
Une philosophe de cette relation de couple. Alors, dans le couple, la valeur, cette idée de valeur est très importante. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? Est-ce qu'il faut, pour se mettre en couple, avoir les mêmes valeurs ? Comment ça se passe ?
C'est sûr que dans un couple, les valeurs, c'est très important au double sens du terme. Celui qui a été très fortement souligné par Bernard, la mise en valeur de l'autre. Parce que d'abord, être dans un couple pour descendre l'autre tout le temps, c'est une garantie d'échec très rapide. Ou en tous les cas, de morosité grande tout au long de la relation, si elle dure. Donc la première chose, c'est mettre en valeur l'autre. Mais pour mettre en valeur l'autre, il faut déjà avoir la valeur de l'autre, de l'altérité. Donc si on ne développe pas soi-même des valeurs qui servent la capacité de mettre l'autre en valeur, ne serait-ce que sortir de l'égoïsme, voilà une contre-valeur. Si je suis égoïste et égocentrique dans un couple et que ce qui m'intéresse, c'est de me c'est moi et de me mettre en valeur moi et de pas mettre en valeur l'autre, je vais pas avoir les valeurs qu'il faut pour tenir un couple longtemps. Donc la première chose qu'il faut déjà, c'est l'altérité comme valeur. Ça, c'est capital, capital. La deuxième, c'est de la bonne volonté, et il en faut beaucoup. Et la volonté, par exemple, c'est une valeur qu'on trouve très ringarde et qu'on confond avec volontarisme et qu'on confond avec laborieux. Et ah bon, alors si j'ai la volonté comme valeur, ça veut dire que tout le travail que je vais faire, c'est ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, etc., etc. Quitte à rentrer dans la toute-puissance, ça doit être comme je veux. Non, pas du tout. Mais la volonté, avec ce petit mot « bonne » devant, un peu de bonne volonté, voilà une valeur, mais capitale dans un couple. Un couple, ça se construit, ça demande vraiment une volonté de construire, ça demande une volonté de passer outre plein de choses. L'écoute, l'attention, tout ce qu'on a dit, l'indulgence, grande valeur. Sinon, le couple, il est voué au rapport de force en 5 minutes. L'accueil de la différence. Enfin bon, c'est sûr que pour moi, la valeur thérapie, enfin cette thérapie par les valeurs, cette autothérapie par les valeurs, j'allais dire, c'est une manière de servir le bonheur relationnel. Je vois tellement de gens qui arrivent dans mes ateliers sur la voie de l'amoureux et qui sont là en me disant « je rencontre jamais personne » ou « ça se casse la figure très vite » ou « ça marche jamais ». Alors je leur dis « bon, bah alors c'est quoi que vous souhaitez ?»« Ben, je souhaite le bonheur, je souhaite le plaisir. » J'ai ça comme désir, c'est le désir le plus profond de ma vie. Et je leur dis, mais alors qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Quelle valeur vous êtes prêt à servir pour servir votre désir? Les valeurs, c'est ce qui nous permet de nous mettre en adéquation avec notre désir. Si j'ai le désir d'être heureux, je ne peux pas servir des valeurs tristes. Ce n'est pas possible. Ou alors, il ne faut pas raconter que j'ai le désir d'être heureux. Donc, si j'ai le désir d'être heureux, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour? Quelle valeur je suis prêt à changer pour changer de valeur, pour changer de vie et améliorer ma vie relationnelle? Donc ça, c'est très, très important. Et vraiment, je vous assure, je trouve que c'est, même si je le dis moi-même, c'est une thérapie révolutionnaire. Parce qu'elle remet cette volonté à l'honneur, pas comme volontarisme, pas comme toute puissance, pas comme morale du bien, mais comme je me mets au service de mon propre désir.
Oui, alors, pour vous, les valeurs peuvent être véritablement, et on vous l'entend bien, un outil thérapeutique. Alors, en quoi, dans une thérapie, les valeurs sont comme des accélérateurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus encore?
Voilà, d'abord, c'est le très bon mot, Florence. C'est des accélérateurs. Je ne dis pas que la valeur thérapie, ce serait complètement idiot, et la thérapie. Je dis qu'elle enrichit toutes les autres thérapies. Parce que quand on vient dans des thérapies pour guérir, on vient avec de la plainte, on vient avec la recherche des causes, et papa, et maman, et les traumatismes de mon enfance, etc. Et très souvent, on oublie de se poser la question de l'avenir, c'est-à-dire vers où je veux aller. D'accord, j'ai eu tout ça dans mon passé, mais vers où je veux aller? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire de mon passé pour donner à mon énergie la direction de vers où je veux aller? Et en thérapie, on oublie un tout petit peu, à force de chercher les causes, on oublie un tout petit peu le côté qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour mon désir pour que ça change. Et donc, c'est un accélérateur de guérison. C'est un accélérateur. Bien sûr, ça n'est pas la panacée universelle. Mais qu'est-ce que ça accélère de venir chez un thérapeute et de dire « D'accord, j'ai tous ces bagages, d'accord, j'ai tous ce problème, mais je veux être heureux et je suis prêt, quelque part, à faire les efforts qu'il faut pour aller dans le sens de mon désir de bonheur. » Voilà.
Oui. Monsieur Bernard Leblanc, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit?
Ben là, je suis, je sais pas combien, 1000% d'accord. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Mon désir, ça peut être le désir d'avoir, comme je voudrais avoir une femme, je voudrais avoir le bonheur, je voudrais avoir. Donc c'est un désir capteur ou un peu spoliateur, parce que tout ce que je veux avoir, c'est ce que je n'ai pas. Si je ne l'ai pas, je vais en avoir marre assez vite parce que j'en ai marre, je ne trouve pas l'âme sœur. Ça fait 50 âmes sœurs que j'essaye, et à chaque fois, c'est comme si j'étais avec des hameçons à trouver l'âme sœur et puis qu'elle ne s'amordait pas au bout. Donc je vais me trouver, mais en avoir le désir d'obtenir le bonheur ou en avoir marre, c'est le même avoir une mare, d'être dans sa mare et puis en avoir marre, patauger dans sa mare. Tandis que là, ce qu'on est en train de dire, c'est bon, je peux me plaindre que je suis pas aimable, mais si je suis pas aimant, je suis pas aimable. Je vais jamais trouver quelqu'un à aimer si je n'arrive pas à l'aimer et s'il voudrait que elle ou que lui m'aime et que réponde à.
Voilà une valeur capitale, être aimable pour pouvoir être aimé. Et ben voilà, être admirable pour pouvoir être admiré.
Et c'est en admirant qu'on devient admirable, c'est pas en se lamentant. Et en se lamentant, on devient lamentable.
Ah oui, j'ai bien compris. C'est en se lamentant qu'on devient lamentable. Oui.
Et c'est en admirant qu'on devient. Et c'est en étant aimable et en aimant qu'on devient aussi aimable. Mais à l'envers, c'est en ayant la valeur de l'amabilité qu'on devient aussi un meilleur aimant. Voilà. Et pour reprendre juste un petit mot sur cette histoire de thérapie, c'est, ça change quelque part la valeur thérapie, ou cette idée de mettre nos valeurs pour ajouter un supplément de valeur à nos thérapies, c'est on change le besoin de changer. Pourquoi on va en thérapie ? Parce qu'on trouve qu'on a besoin de changer. Et on ajoute le plaisir de changer par ma propre liberté au besoin de changer. Disons que les thérapies classiques s'occupent du besoin de changer et que la valeur thérapie rajoute le plaisir de changer en fonction de mon propre pilotage.
Parce que, par exemple, on se marie, pourquoi ? Alors, le contrat stipule pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a le reste, tout le reste. Et le reste, ben, on peut empirer le meilleur et on peut transpirer le pire, mais je ne sais pas. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? Est-ce qu'on s'ennuie ? Est-ce qu'on se dévalue ? Est-ce qu'on se démonétise ? Est-ce qu'on se dévitalise ? On discute de stocker comme de part en part, chacun, l'un va vider les ordures et l'autre s'occupe de ceci, de cela. Est-ce qu'on est en train d'embarquer dans un voyage où il n'y a pas une journée, où il n'y ait pas une nouvelle découverte, une nouvelle révélation, une nouvelle trouvaille. Et bon, et ça, on ne peut le faire que si on a la valeur du voyage, presque.
Et de l'audace.
Et de l'audace. L'audace, le mot étymologiquement veut dire la joie d'aider. C'est-à-dire la joie d'aider quelqu'un à se déployer, à se développer, à se surprendre. Donc moi, si je ne suis pas... complètement attentif à la liberté de l'autre, et si ma liberté ne commence pas là où commence celle de l'autre, c'est-à-dire je le soutiens, si on est comme un grumeau accroché l'un à l'autre, ou comme deux personnes qui s'enfoncent mutuellement, mais ça n'a pas la peine de se marier, on est déjà divorcé depuis longtemps. Le divorce, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de reconnaissance et de considération pour quelqu'un d'autre que moi. Divorce est déjà consumé.
On a l'impression, quand vous écoutez, que les valeurs sont comme un instrument de navigation.
Oui, à vue, à l'estime.
Tout à fait, ça permet de piloter, disons copiloter, parce que la réalité existe, et on doit faire avec, et on ne va pas faire yukaidi, yukaida avec les valeurs, tout va bien. Non. Mais elles permettent de copiloter, c'est là que je disais que c'est notre pouvoir personnel, enfin, que je disais avec Deleuze que c'est notre pouvoir personnel. Ça permet de copiloter, de donner une direction à notre vie, de nous accompagner, à partir de choses qu'on a choisies. Et là, ce que je trouve important, peut-être pour nos auditeurs, on ne l'a pas souligné, c'est de faire bien la différence entre les valeurs et les vertus. Et les vertus. Parce que les gens, quand on parle de valeurs, pensent tout de suite, ils ont une espèce de résonance un peu, qu'ils le veuillent ou non, par la porte ou par la fenêtre, ça touche le côté, comme ça, notre rapport à la morale. Et on pense tout de suite à les vertus. Et il va falloir qu'on applique des choses toutes faites. Non, les valeurs, c'est effectivement des instruments qui bougent, qui changent, qu'on adapte et pour mieux accompagner notre vie. Les vertus, c'est cette partie peut-être de l'essence de nous-mêmes qui va se révéler et qui sont, elles, peut-être immuables et qui vont se révéler. Notre partie la plus spirituelle, j'allais dire, qui va se révéler d'elle-même à travers les valeurs qu'on va mettre en route si elles conduisent au bio, au vital, à la force de vie, à la joie de vivre. Et à ce moment-là, peut-être que ces vertus vont se développer. Mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'accompagner sa vie en toute liberté.
Je me tourne vers vous, Monsieur Bernard Leblanc-Almos, parce que vous êtes intéressé aussi au monde de l'entreprise. Et là aussi, il y a les valeurs soutenues tout simplement par l'entreprise. Et aujourd'hui, les valeurs de l'entreprise, on a l'impression que les principales valeurs de l'entreprise, c'est rémunérer le plus ses actionnaires, faire partie du CAC 40, etc. Et qu'aujourd'hui, eh bien, en tant que salarié, beaucoup ont besoin d'aller dans une entreprise qui a d'autres valeurs que celles-là, et on le voit beaucoup chez les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce manque peut-être de valeur dans l'entreprise?
C'est pas qu'il y ait manque de valeur, c'est souvent des valeurs qui sont faites avec de la fausse monnaie. C'est-à-dire c'est des faux monnayeurs, ce genre de valeurs. C'est des valeurs qui sont d'abord que des valeurs chiffrées. Donc les chiffres étant les délais dans le plus rapide, le flux tendu, la rentabilité, etc. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que tout ce genre d'entreprise est en train de s'écrouler de l'extérieur parce que les valeurs financières ne fonctionnent plus, de l'intérieur parce que les gens se jettent par les fenêtres et qu'ils n'en peuvent plus. Et les jeunes, vraiment, je les remercie, qui ne veulent pas participer à ce genre de destruction mentale, morale, psychique et aussi d'économie contre nature.
Ils veulent s'investir dans les ONG.
Je suis très, très content. Et il y a une fuite de cerveau des jeunes qui fuient cet endroit qui est... toutes les entreprises sont pas comme ça.
On va pas généraliser.
J'espère que la vôtre n'est pas comme ça ici et qu'il y a plein
pas
de...
Pas vraiment.
Et dès qu'il y a une entreprise vivante, si vous allez, c'est-à-dire que vous entendez des rires, que vous entendez, il y a une ambiance, il y a un climat, ça manque pas d'humour. Il y a, moi, ce que j'appelle des villages dans l'entreprise, oui. Un peu comme une ville où il y a des quartiers, où dans les quartiers il y a même. Et il y a une vie de village qui est très. Alors, si on peut utiliser un mot ce matin, qui est très valable, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans un endroit où il y a une vie sympathique et où il y a, ça ne manque pas d'ingéniosité, d'inventivité. Parce qu'il y a de la marge de manœuvre, parce qu'on ne répond pas tout de suite au délai, parce qu'on a, on vit encore comme on pouvait le vivre autrefois, une entreprise qui est à visage humain, et il y en a, et elle marche. Et elle marche. Et il y a des jeunes, et il y a des vieux. Et les jeunes donnent des... intègrent les vieux. Et
les vieux intègrent les jeunes.
Et ils se fêtent mutuellement. Et ils sont pas... C'est étonnant. C'est vraiment des aventures très intéressantes. Ça existe même dans des grosses entreprises. Tout d'un coup, il y a un endroit où il y a un village d'irréductibles gaulois qui fait marcher l'entreprise. Souvent, qui ne sont pas vécus comme étant la source de...
Oui, alors, village type gaulois, ça veut dire qu'il y a une potion magique,
hein. Oui, il y a une élixir. Potion magique.
Ce serait quoi, la potion magique?
Je l'ai donnée tout à l'heure. C'est de mettre en valeur ce qui est valable. C'est de remédier à ce qui est remédiable. Et c'est de s'étonner toujours. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur. À l'intérieur, ça veut dire que les endorphines fonctionnent. Parce que mettez juste, partez ici dehors une demi-heure et voyez tout ce qui est valable, vous allez voir que ça va vous réjouir de l'intérieur. Essayez de porter remède à ce qui est difficile chez vous ailleurs ou en couple, vous allez voir que ça allume le cerveau. Et ça, c'est quoi? C'est la potion magique, c'est le liquide même de la potion qui coule à l'intérieur de soi.
On en revient à la joie.
Et oui. Donc, une équipe qui se rencontre le matin, prend le temps de se retrouver, un petit café, fait des blagues, des brèves de comptoir, se surprend complètement, est en train de chaudronner la potion magique pour la journée.
Je pense que dans ce chaudron, dans la potion magique, ce sont toutes les valeurs relationnelles. C'est donner de l'importance à la relation en plus de l'efficacité. Ouais. Et moi, je vois très bien au niveau de ce travail que je fais sur les valeurs, je vois beaucoup de coachs qui récupèrent la valeur thérapie pour le travail en équipe. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui, enfin, les entreprises comprennent de plus en plus que les conflits relationnel au sein de l'entreprise, les difficultés dans les équipes sont à 90% des conflits relationnels et ça coûte très cher à l'entreprise.
Au trou de la sécurité.
Ça coûte plus cher à les conflits relationnels, je crois, ouais. Aujourd'hui coûtent plus cher à l'entreprise que les conflits que les problèmes d'efficacité.
Oui, très cher.
Et je crois que on se rend compte aujourd'hui que si on développe pas des valeurs relationnelles en entreprise, on peut toujours courir avec l'efficacité.
Ouais. Et le point, c'est pas de les afficher à l'entrée ou c'est pas de faire des, parce que ça, c'est bon, c'est de les faire vivre, de les animer, donc ça veut dire toute la pratique, c'est vraiment une pratique au quotidien de la mise en valeur des valeurs. C'est ça qui change l'entreprise, le couple, même soi-même, on est déjà en couple et ma petite entreprise, c'est déjà moi. On est déjà une entreprise à soi tout seul.
L'équipe, ça commence à deux.
L'équipe, ça commence à un.
On est déjà une équipe, on est nombreux là-dedans.
C'est pour ça, l'équipe, ça commence tout seul. Et vous voyez que du coup, on se retrouve. Bien sûr qu'il faut devenir soi-même en tenant compte que dans soi-même, il y a déjà tout l'autre qui est l'entreprise.
C'est l'altérité.
Donc, on est déjà autre pour soi-même aussi. Donc, bien sûr que devenir soi-même sans tenir compte de l'autre en nous-mêmes, c'est déjà pas avoir compris qu'on est toujours deux, qu'il y a toujours de l'autre, toujours de l'altérité, et que donc les valeurs relationnelles commencent chez nous. Comment je m'entends avec moi-même?
Donc, je suis natif d'où? Moi, de plus en plus, je m'aperçois que je suis natif de l'alternatif. C'est tout ce qui me rend alternatif qui m'amène à naître à nouveau et à connaître des choses que je ne savais même pas.
Naître à nouveau, hein, c'est tout. C'est à travers l'autre.
Alternatif. Hein,
à travers l'autre.
Alors, Aruna, on arrive à 5 minutes de la fin de l'émission. Et je vois que vous avez pris quelques notes et certaines de ces notes, vous les avez entourées. Alors, je me dis peut-être
j'ai à peu près dit ce que j'avais envie de dire.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez. Enfin, il y a plein de choses parce que, alors, le DVD, il dure 3 heures.
Il est plus court. Il dure 2 heures. Il y a une partie qui est sur le débat entre nous trois, et il y a une partie où chacun pose comment il utilise les valeurs. Donc Bernard en entreprise avec un concept qu'il appelle le vaisseau des valeurs, moi en thérapie relationnelle avec ma valeur thérapie, et Jean-Claude Genel avec aimé comment les valeurs permettent d'accéder à sa spiritualité. Et donc chacun a développé son morceau à lui. Et voilà, donc le DVD dure 2 heures. D'ailleurs, il y a un petit bout sur YouTube. Et il y a une petite bande-annonce sur YouTube. Et si les auditeurs ont envie d'aller la regarder, et à partir de là, ils peuvent commander le DVD. Et il est intéressant parce que, pas parce qu'on l'a fait, puisque de toute façon, c'est un collectif, mais il est intéressant parce que je crois qu'il est une source de débat chez les gens. Vu les différences qu'on a soulignées entre nous, vu toutes les différences d'approche des trois intervenants, je crois que ça permet de remettre à l'honneur le débat sur les valeurs. Parce qu'encore une fois, tout à l'heure, on a dit l'entreprise manque de valeurs. Il ne peut pas y avoir de manque de valeurs comme il ne peut pas y avoir de crise de valeurs. On en a, on ne les a juste pas nommées. Et elles peuvent être mauvaises, mortifères, mais il n'y a pas de manque de valeurs. Il y a des valeurs mortifères, souvent en entreprise, quand il n'y a que l'efficacité. Mais il n'y a pas de manque de valeurs. Et donc, reprendre la responsabilité, qu'on le sache ou non, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on active nos valeurs dans le moindre de nos dans tous nos comportements, c'est, je crois, important de remettre ça dans le débat public.
Oui. Apprendre à les nommer aussi.
Justement.
C'est pas évident.
Et les nommer.
Voyez, parce que vous connaissez, vous mettez le bon mot sur chaque chose, mais on peut avoir quelques difficultés à bien nommer ces valeurs.
Alors là, je dis toujours, demandez à vos proches, ils vous les nommeront pour vous. Ça s'appelle le reproche qui veut... Dans tout reproche, il y a quelque part un indicateur des valeurs tristes qu'on a. Ou des valeurs sur lesquelles on doit se remettre en question. Donc vous avez raison, la première chose, c'est de reconnaître qu'on a des valeurs, même si on croit qu'on n'en a pas.
Oui.
Parce que, et regarder nos comportements pour voir ces comportements, ils répondent à quel type de valeurs. Si je suis quelqu'un qui condamne tout le temps et qui juge tout le temps, je ne vais pas pouvoir dire que je sers l'indulgence. Si je suis quelqu'un qui a la dent dure, qui a de la rancune, tiens, voilà. Si je suis quelqu'un qui a de la rancune, je ne peux pas dire que j'ai le pardon pour valeur. Voilà. Donc, on a beaucoup de déclarations d'intention dans la vie. Et il faut bien voir que si on veut vérifier ses intentions, on a intérêt à regarder comment on se comporte. Et nos valeurs sont sous-jacentes à ces comportements. Alors après, vous avez raison, c'est un peu difficile de les nommer. Mais nos amis, entre guillemets, et nos proches nous aident bien par les reproches. Et à travers les reproches, on peut commencer à nommer ce qu'on sert vraiment, malgré nos déclarations d'intention.
Il peut y avoir une distance entre
les deux.
Il y a
un décalage. Alors là, il y a un décalage souvent énorme entre nos déclarations d'intention et la réalité.
Et la réalité.
Donc, avec les valeurs qu'on croit servir et celles qu'on sert vraiment. Donc, voilà, si on veut retrouver son pouvoir personnel, moi, je crois qu'on a intérêt à faire un travail intéressant sur les valeurs. Et si la société veut retrouver de la joie de vivre sociale au lieu de l'amorosité, le débat sur les valeurs devrait revenir sur les plateaux.
Alors juste un petit mot, vous êtes aussi kabbaliste, Aaron Alipsit, et dans ce DVD, eh bien, vous évoquez l'arbre de vie kabbaliste et vous faites un lien avec les valeurs.
Ah oui, ça c'est un autre sujet. Bon, c'est vrai que je me sers d'une référence.
Voilà, on ne va pas pouvoir l'aborder parce que c'est énorme.
Oui, une Alors, autre fois. Je prends l'arbre de vie kabbaliste sur lequel il y a 10 régions,
ouais.
Et ces régions, je les ai travaillé, j'y ai réfléchi pour trouver dans chaque région des valeurs fondamentales pour mieux s'approcher de l'autre, pour être mieux en relation. Donc je dis que dans cet arbre de vie kabbaliste, on retrouve 10 valeurs fondamentales pour mieux s'approcher de l'autre.
Alors ce sera l'objet de notre émission, hein, parce que ça, c'est...
Oui, et ça aide à nommer. C'est surtout, je ne le fais pas comme un truc, comme ça, une vérité absolue. Ça permet d'avoir des repères pour nommer les valeurs.
Merci beaucoup, Aaron Alipsit.
Mais merci à vous.
Bernard Leblanc-Almos, vous reviendrez dans une émission, je l'espère.
J'espère,
pour nous parler de votre livre aussi. Il a pour titre « Mon chef est-il cosmiquement rentable ?» Voilà. Alors, c'est vrai que ça interpelle, ce titre-là.
Oui, en plus, mon chef, c'est aussi moi, parce qu'on est son propre chef. Donc, ce qui est intéressant sur les valeurs, c'est qu'on pourrait penser qu'il y a des valeurs éternelles, statiques, etc. Bon, il y a des valeurs qui sont cultivées quand on les met en valeur, mais il y a des valeurs qu'on ne connaît pas encore. Et moi, j'ai fait des vaisseaux de valeurs dans différents pays étrangers, et c'est très incroyable de voir les différences, mais comme on disait tout à l'heure, les interférences culturelles entre une valeur que nous, on pense la valeur, et de l'autre côté, qui est vue différemment, nommée, renommée différemment. Parce que c'est cette renommée de valeur d'aller découvrir sur d'autres rivages. Il faut quitter son village. Il ne faut pas simplement mettre en valeur ce qu'on est ou ce qui se passe, ou son petit lopin de chair, ou ses petits copains.
Il faut prendre son bâton de pèlerin.
Il faut prendre et aller pèleriner là où on n'a jamais mis les pieds, les pensées, et où le cœur découvre des nouveaux battements. Rien qu'en découvrant donc. Et là, on découvre des valeurs évolutives qui sont même encore insoupçonnées, qui sont de toute éternité
insoupçonnées. La suite de l'humanité.
Oui. Et donc, d'aller du village vers les rivages, comme fait avec la potion magique, qui est la mise en valeur de ce qu'on voit, et d'essayer de transformer ce qui ne va pas.
Voilà.
Et de mettre en nom, parce qu'il n'a pas de nom souvent, c'est pour ça que les mots, il faut aller les voir différemment. Ce qu'on ne connaît pas, par exemple, une valeur comme la solidarité, ben on va voir que dans des pays, ce mot-là n'existe que solidarité en marche. Elle n'a rien de statique. Que le respect n'est pas une valeur passive, mais c'est une valeur, si je te respecte, je vais te voir. C'est pas je te respecte, tu fais ce que tu veux. Etc, etc. Que les valeurs, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est un plaisir de la découverte, une reconnaissance, une gratitude, un savoir-gré énorme qu'on peut continuer en tant qu'être humain, en interculturel, inter-échange, de découvrir des valeurs parce qu'on a été en hospitalité, comment on pourrait dire, nomade, où on va chez les autres offrir l'hospitalité, de l'écoute, de la bienveillance, de l'attention, de la découverte, et qu'on découvre tout ce qu'on ne savait pas qu'on était déjà.
Et voilà, et ça permet de voir que les valeurs vont co-créer une fraternité en devenir.
En devenir, et en marche.
Donc on est responsable, pouvoir personnel, de la transformation de l'humanité à travers nos valeurs. On voit que ce n'est pas rien des valeurs.
À travers la mise en valeur.
Et la mise en valeur. Donc on voit que ce n'est pas rien, nos valeurs et notre compétence à mettre en valeur.
Chaque valeur n'existe que si elle est changée. Dès qu'elle est échangée, elle prend de la valeur. Quand elle n'est plus échangée, elle n'existe plus.
Voilà, merci beaucoup. Aruna.
Florence, je suis toujours admirative.
Moi, je suis admirative. On est à l'antenne, là. Merci, c'est gentil. Mais je voudrais simplement dire qu'il y a un DVD qu'on peut l'acheter sur Internet.
On peut l'acheter sur Internet en passant par YouTube ou en allant sur gproduction.com, je crois.
Voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc Bernard Leblanc-Almos, Mon chef est-il cosmiquement mental? C'est aussi un livre. On en débattra une prochaine fois. Merci Aruna.
Merci Florence.
Et c'était Enzo Di Meo qui a réalisé l'émission. Polis, donc des pierres, des marbres polis. Ils sont très fortes, tous ces violets, parce qu'ils disaient que quand et ces formations rocheuses, c'est